On va laisser la place maintenant au docteur Laurence Carpentier, car Michel Bastard, qui est directrice de l'établissement dont on va parler, s'est sacrifié pour que Madame Carpentier puisse avoir le temps de vous exposer la mise en place et l'évaluation de pratiques intégratives au sein d'un hôpital de jour qui accueille des jeunes enfants autistes.
Bonjour, donc je suis pédopsychiatre, responsable d'un hôpital de jour pour jeunes enfants en Haute-Garonne, et je vais vous témoigner de la mise en place de pratiques intégratives sur un hôpital de jour. Par rapport à l'exposé précédent, il me semble important de souligner qu'il y a des indications précises pour les uns et pour les autres et que les approches ne sont pas exclusives mais complémentaires. Et deuxièmement, je voudrais souligner notre plateau technique qui n'est pas du tout le même que le CESAD, puisqu'ils étaient à 17,5 ETP, nous sommes à 13,5 ETP. 9 soignants, un psychiatre, un pédopsy, un psychologue plein temps, une orthophoniste plein temps, 1,5 psychomote, et on rajoute un temps et demi d'enseignants spécialisés. Donc, on est un hôpital de jour de tout petit, puisqu'on prend des enfants de 2 ans et demi à 7 ans, 16 heures par semaine sur site, dont 2 repas. On est dans le respect des recommandations, puisque tous les enfants sont par ailleurs intégrés à mi-temps, soit en crèche, soit en école ordinaire. L'école ordinaire, il y a des AVS, on parlera comment on essaye de les aider. Et sur les crèches, pour les petits qui chez nous sont intégrés, on a réussi à avoir un partenariat avec le Sicoval, qui est la structure qui gère les crèches. Voilà. Je vous la fais vite. Mais pour avoir du personnel supplémentaire, quand c'est des petits-enfants de chez nous qui sont intégrés sur les crèches de notre secteur. Donc, on a en plus de cet hôpital de jour sur le même site une unité de soins précoces qui prend en charge des enfants d'âge crèche, puisqu'on a fait tout un travail, une EPP de repérage des enfants sur les crèches. Mais après, qu'est-ce qu'on en faisait? Voilà. Et puis, s'ils avaient un profil hôpital de jour, mais qu'ils avaient que 18, possiblement hôpital de jour dans la suite, il nous semblait un peu idiot de devoir dire jusqu'à 3 ans, vous allez là, et puis après, vous allez à l'hôpital de jour. Donc, on a essayé de quelque chose qui facilitait le parcours de soins des enfants. Donc, au démarrage, c'est un hôpital de jour au fonctionnement, entre guillemets, classique, avec un groupe de vie qui est le socle de l'hôpital de jour, hein, avec un soin qui s'ancre sur des expériences de vie dans le rythme du quotidien. C'est-à-dire, on fait les choses avec l'enfant, que ce soit à manger, que ce soit l'acquisition de la propreté, etc. On fait avec, on lui propose des activités, la mise en mots et en récit. Je le fais vite pour plus insister sur les pratiques intégratives, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée. Et à partir du groupe, en fait, l'enfant a un projet de soins qui est individualisé, qui peut être des ateliers médiatisés, mais qui ont des indications extrêmement précises, hein, médiation corporelle, médiation cognitive, sensorielle, artistique, etc., des temps éducatifs individuels, des thérapies d'échange et développement, des rééducations, des approches psychothérapiques, parce que oui, les approches psychothérapiques sont intéressantes. Alors, ce ne sont pas des approches qui sont, selon les représentations qu'on a de la psychanalyse, hein, ça peut être des approches autour de la construction psychocorporelle et en prenant tout le travail de Geneviève Hague, ou ça peut être pour les plus grands, les verbaux, des enfants qui, à partir de mes plus grands, hein, quand ils deviennent verbaux, peuvent avoir des approches individuelles pour travailler leur ressenti émotionnel, les liens entre les émotions et leur vécu, et pour les aider à pouvoir se construire psychiquement. On a des temps de classe et enfin, on a des séjours thérapeutiques où les plus grands peuvent partir 3 fois 3 jours avec les éducateurs et infirmiers pour une approche de pouvoir vivre à l'extérieur du domicile. Et c'est aussi quelque chose qui peut être fait pour certains enfants pour qui, ce qui est exceptionnel mais qui peut arriver, on a un internat à temps partiel peut-être préconisé. Donc, je vous le fais vite, les petits, les grands, hop. Alors, d'abord, qu'est-ce que sont des soins intégratifs? Alors, des soins intégratifs, c'est un ensemble d'interventions coordonnées, éducatives, thérapeutiques et pédagogiques. Alors, je crois que tous les enfants autistes ont besoin d'éducatifs, tous ont besoin de pédagogiques, thérapeutiques, certains simplement en ont besoin, mais ceux-là sont chez nous. Proposer à un enfant, appréhender dans sa globalité et sa singularité, en relation bien sûr avec ses parents et son milieu habituel de vie. Donc pour nous, les soins intégratifs s'appuient sur la mise en relation d'apports théoriques et de perspectives psychopathologiques, physiologiques, les neurosciences complémentaires, qui aboutit à une compréhension partagée, le mot est important, et à un projet de soins individualisé. Alors, les soins intégratifs, ce n'est pas du cumulatif, ce n'est pas le gamin qui va faire de l'ABA à l'extérieur de l'hôpital de jour et qui aurait dû supposer purement soins psychiques à l'hôpital de jour, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais à un moment, c'est peut-être ce qui a circulé. Hein. Ce n'est pas non plus du soin coordonné, ça ne suffit pas, c'est vraiment du soin intriqué et coordonné. Notre projet médical repose de ce fait sur un trépied. La prise en charge de l'enfant, le soutien de l'intégration en milieu ordinaire et l'accompagnement de la famille qui sont des as extrêmement importants. La prise en charge de l'enfant en elle-même est déployée avec 3 registres. Le projet éducatif qui soutient l'autonomie et la socialisation. Le projet thérapeutique qui soutient sa construction psychocorporelle et le projet pédagogique qui soutient ses apprentissages. Par ailleurs, vous le verrez, depuis quelques années, on a renforcé l'abord somatique de ces enfants. On a un soutien important de l'intégration en milieu ordinaire, crèche pour les petits, école pour les suivants, et un accompagnement de la famille particulièrement intensif, famille, parents, mais aussi fratrie. Donc, le passage à une pratique intégrative, qu'est-ce que ça a changé dans notre, je dirais, pratique ? Dans notre pratique, ça a permis une articulation entre les différentes références théoriques. Ça a permis une attention, une intégration, je dirais, des avancées scientifiques au sens large, parce que ça peut être aussi des pratiques au fur et à mesure. Je vais vous donner juste un petit exemple. Moutron est passé à Toulouse, a fait un exposé auquel l'ensemble de l'équipe est allé, et on reparlera de la nécessité que pour changer une pratique, il faut que l'ensemble de l'équipe adhère à ce changement de pratique, parce que vous ne pouvez pas seul être moteur de porter un projet. À la suite de ça, on a réfléchi à l'utilisation des tablettes pour favoriser la mise en place de catégorisation pour des enfants qui, en fait, avaient du mal sur des propositions individualisées. Donc, ces enfants s'intéressaient à des tablettes en chargeant des jeux de catégorisation, en se mettant assis à côté d'eux et en leur proposant de temps en temps, on espère, pour l'instant, ça c'est récent et ça n'a pas été évalué, diminuer l'impact déficitaire. Un positionnement extrêmement différent auprès des familles, et j'y reviendrai, hein, c'est-à-dire, c'est pas les familles sont des partenaires pour nous, pas des co-thérapeutes, mais des partenaires, un accompagnement plus soutenu de l'intégration ordinaire et une attention portée, bien sûr, au processus somatique. Donc les finalités de ce projet sont multiples, c'est avant tout, bien sûr, des finalités autour de l'enfant et de la famille, et pour nous, les deux choses ne sont pas dissociées. Pour l'enfant, c'est lutter contre les effets de fragmentation, garantir la cohérence du projet, la prise en compte globale de l'enfant, favoriser bien sûr sa construction psychocorporelle, on est dans le soin psychique, freiner, réduire lenteur, voire arrêter le processus autistique. Et je dois vous dire que sur les enfants qui sortent, on a des enfants qui étaient évalués autistes à l'entrée selon les recommandations, voire selon le CRA, qui ne sont plus à la sortie. Et quand on dit ça, on fait toujours faire l'évaluation par des services extérieurs et par le CRA pour pas que l'enfant soit familiarisé trop chez nous quand on refait l'évaluation de sortie, soutenir bien sûr son intégration sociale. Pour les familles, c'est extrêmement important. D'une part, pour nous, c'est étayer leur parentalité mise en mal par les difficultés de l'enfant, mais aussi il faut voir qu'on a des parents qui arrivent au moment du diagnostic qui sont en état de traumatisme. C'est leur permettre de sortir du traumatisme et petit à petit de pouvoir faire avec. Pour l'équipe, c'est bien sûr prévenir les effets de découragement, soutenir l'investissement de l'enfant et améliorer nos savoir-faire. Donc, premier point, c'est une articulation, bien sûr, entre différentes références théoriques. Donc, au niveau de l'enfant, il y a toutes les approches neurodéveloppementales et neurocognitives qui éclairent le développement des enfants et les spécificités des enfants autistes. mais aussi les approches psychanalytiques, excusez-moi du gros mot, et psychodynamiques autour de la construction corporelle, de sa sensorialité, de ses angoisses. Au niveau de la famille, des approches psychodynamiques classiques et des approches interculturelles, puisque nous sommes un secteur qui est implanté sur les quartiers, notamment, pas uniquement sur les quartiers sensibles de Toulouse, donc avec un facteur d'immigration et d'interculturalité extrêmement important. L'usage des théories, pour nous, ce qui est très, très important, je vais essayer, même en faisant vite, de vous donner deux exemples. C'est un usage qui est non dogmatique et qui est enraciné dans une pratique clinique attentive à l'expression des phénomènes psychiques en situation, et l'idée, c'est que ça nourrisse nos approches. Par exemple, un enfant, au moment du départ des taxis, va faire des crises très, très, très importantes. Selon l'analyse qu'on peut en faire, nous allons avoir des réponses différentes. Le premier, on peut se dire que dès qu'il y a des changements, il fait des crises. C'est donc quelque chose qui doit relever d'un travail sur l'anticipation. Donc, il va être sur son groupe de vie, son emploi du temps va être bien fait, il y aura le timer avant le départ du taxi, il partira avec le picto en main, et l'éducateur ou l'infirmier l'accompagnera avec le picto en main sur le taxi. Voilà. Un deuxième, ça peut être parce qu'en fait, il est sur des intrusions sensorielles massives, et que c'est vrai que la salle de taxi, où il y a en même temps plusieurs familles, plusieurs enfants, plusieurs... est compliquée. Donc, c'est vrai que certes, on va lui éviter la salle taxi, mais en même temps, on va faire tout un travail sur les flux sensoriels autour de différentes approches faites par la psychomotricienne pour lui permettre d'intégrer les flux sensoriels. Et puis, il va être sur l'atelier continu pour lui permettre d'approprier la commodalisation sensorielle. Un troisième, c'est un enfant qui semble complètement éclaté, qui se met par terre. On a l'impression qu'il perd son ressenti corporel. Aucun des aménagements qu'on vient de vous dire ne suffit. On se pose en plus la question, c'est que des cas cliniques, parce qu'à chaque fois que ça se passe, il crie « maman, est-ce que sa maman lui manque ?» Est-ce que voilà. Donc on a plein d'hypothèses qui arrivent. Et finalement, c'est tout un travail sur le ressenti corporel, petit à petit, qui va se faire à travers différentes médiations qui vont aider l'apaisement de cette petite fille. Donc, au total, ça aboutit quand même à un changement profond dans la conception du soin, avec une prise en compte des particularités de fonctionnement des enfants autistes au cœur du dispositif. Donc, bien sûr, ce qu'on sait, ce que nous ont apporté d'autres, notamment Teach, des mises en place d'un cadre formel compréhensible dans le temps. Donc, il y a des emplois du temps, des rituels, des timers, enfin, tout ce qu'on sait. Dans l'espace, des espaces différenciés pour les différentes activités. Une énorme attention apportée aux hypersensibilités sensorielles. Donc, on a diminué la taille des groupes. On a au maximum, sur le même temps et sur des temps limités, puisqu'on a beaucoup de prises en charge individuelles, 5 enfants. On a installé des salles pour les activités qui sont neutres. On a diminué la surcharge visuelle des groupes, mais on a quand même laissé quelque chose qui pouvait ressembler à la vraie vie, puisque l'idée, c'est de généraliser les apprentissages des enfants sur les différents lieux. Voilà. En même temps, il faut dire qu'on a eu la chance d'avoir une réhabilitation architecturale de notre hôpital de jour, ce qui veut dire que l'hôpital de jour a été réaménagé en fonction de notre projet de soins. Au niveau de chaque enfant, on a un repérage très, très précis, vous verrez, de ses particularités, sa sensorialité sur tous les différents domaines, y compris l'expression de la douleur, sa capacité à accéder aux consignes, sa capacité à planifier des sages, son besoin d'immobilité, son besoin de support de communication alternative ou augmentative, le PEC s'est mis en place pour ceux qui en ont besoin dans notre structure, sa difficulté aussi à accéder au symbolique, la nécessité d'un langage imagé pour soutenir sa compréhension, etc., etc. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas quelques-uns qui prennent en compte les spécificités de l'enfant, c'est que tout le monde prend en compte les spécificités de l'enfant. Si l'enfant doit avoir des aménagements particuliers, il l'aura aussi bien sur les temps de classe que sur les temps d'orthophonie, que sur les temps éventuels de psychothérapie. Voilà. Et c'est là où je dis que c'est intriqué. La façon dont on se raconte les choses dans un hôpital de jour, qui est quand même sur toute une donnée de soins psychiques, puisqu'on est quand même sur des enfants qui, je le rappelle, ont pour la plupart des comorbidités, c'est que l'attention donnée au respect des spécificités autistiques apporte une sécurité de base, un apaisement des enfants, à partir duquel se déploie le soin psychique sur ses dimensions développementales et cognitives d'une part, et psychodynamiques et psychocorporelles. Donc là, c'est pour vous, bon, voilà, hein. Ceux qui travaillent sur d'autres méthodes le savent, mais c'est les supports visuels utilisés, hein. À droite, l'atelier émotion, puisqu'on a aussi des ateliers d'habileté sociale, enfin voilà, j'en parlerai, des programmations de la tâche et l'emploi du temps, qui peut être différent, bien sûr. Hein. Pour certains, c'est les pictos, pour d'autres, c'est les photos, et pour des troisièmes, c'est des tout petits objets Playmobil qu'on colle, et voilà, en fonction d'où en est l'enfant. Les espaces intérieurs, c'est ce que je vous ai dit, ont été modifiés. Donc vous voyez qu'on a des petites pièces neutres et des pièces qui sont un petit peu plus vivantes. Donc les abords aussi peuvent être sous-tendus par des approches différentes. Donc on a par exemple les thérapies d'échange et de développement pour soutenir l'émergence des prérequis à la communication chez les enfants non-verbaux. On a des ateliers émotion, des ateliers habileté sociale, je dirais, d'un côté du spectre. Et puis de l'autre côté, on peut aller jusqu'aux psychothérapies. Pour tous, quelles que soient les approches qu'on peut avoir et les abords, on a un maintien du travail relationnel comme base du soin. Donc l'ensemble des interventions est centré par la relation soignante, l'attention et la prise en compte des manifestations de l'enfant, le respect de ses spécificités et pour ceux qui en sont là, la mise en mots et en récit. Ce qui est important, c'est que cette réflexion est partagée au sein de l'équipe pluridisciplinaire. Et c'est vrai que c'est indispensable dans le travail avec ces enfants. Hein, c'est une dimension essentielle et je dois dire que nous avons de nombreux temps, puisque sur notre unité, on a 3 heures de synthèse commune pour tous. Il y a 3 groupes de vie, chacun a 1 heure de travail en plus par semaine et chacun a 1 heure de reprise d'atelier en petit nombre. Par ailleurs, on a des formations et on a eu la chance d'avoir une direction qui a soutenu le fait que les formations PEC, c'est 100% de l'équipe, les formations PEP 3, c'est-à-dire tous les nouveaux outils, ça a été sur site et équipe complète. Et je pense qu'il n'y a pas de secret dans l'appropriation, ce qui veut dire qu'on ferme. Hein ? Ce qui veut dire qu'on ferme et qu'il y a l'acceptation qu'on puisse fermer quelques jours pour pouvoir se former. Donc la réflexion partagée, c'est bien sûr une mise en commun de nos observations, un partage du centre, une analyse. C'est aussi un travail sur la cohérence, le lien qui permet bien sûr de s'harmoniser, mais qui définit aussi des priorités. Pour tel enfant, la priorité, ce sera faire très attention au sensoriel pour le rendre disponible. Donc, on prend beaucoup les travaux de Bullinger, on va prendre... il est complètement pris par les trucs visuels. Notre paravent Vichy va être placé de l'un à l'autre. On va être extrêmement attentif à ne pas saturer. Voilà. Pour tel autre qui est beaucoup plus loin, ça va être le travail des émotions. Donc, le travail des émotions va être travaillé en orthophonie, avec des séquençages d'histoire, va être travaillé avec l'enseignante sur le livre des émotions, va être travaillé en expression corporelle sur l'expression des émotions, va être travaillé sur le groupe avec des jeux Playmobil où on va raconter des histoires et mettre en scène des émotions. Voilà, hein. C'est pour vous dire que quand on a un axe de travail, chacun le décline et on ne peut pas tout travailler en même temps, on monte, c'est un escalier et on construit les étapes l'une après l'autre. On a bien sûr aussi des supervisions d'équipe. Hein. Alors, le deuxième axe est extrêmement important pour nous, c'est l'accompagnement des familles. Pour nous, les familles, ce sont ni des patients, ni des co-thérapeutes. Hein. C'est à leur parentalité, parfois à leur parentalité blessée que nous nous adressons et c'est dans une complémentarité de regard que nous travaillons. Les parents connaissent mieux leurs enfants. Ils sont extrêmement précieux pour nous amener de nombreux renseignements et de nombreuses lignes de lecture. Par contre, objectivement, nous connaissons souvent mieux la nature des troubles. Voilà. Et je trouve que c'est ensemble, en s'intriquant, qu'on peut arriver à travailler avec eux. Par ailleurs, on a sur un hôpital de jour qui accueille des enfants aussi jeunes et aussi malades. Au moins les premières années, nous avons beaucoup d'enfants non-verbaux qui peuvent bien sûr, et puis même quand ils deviennent. Et pour nous, c'est essentiel de permettre aux parents d'avoir une représentation de ce que vit l'enfant au quotidien Et donc, on a des visites de la structure, des portes ouvertes, des cahiers de liaison, des échanges hebdomadaires avec le référent, des albums photos quand il y a des sorties, etc., etc., etc. Et vraiment, on essaye d'être le plus transparent possible sur ce qui se passe et de répondre le plus possible. La dernière chose, c'est qu'à la demande des parents, on vient de faire un film là sur l'hôpital de jour à la demande des parents pour transmettre aux nouveaux parents. Voilà. Hein, donc on est vraiment très très soucieux que les parents aient une représentation de ce qui se fait. Alors les modalités sont diverses. C'est des entretiens hebdomadaires avec le référent pour ajuster notamment tout ce qui est éducatif. Nous, par exemple, on a des petits qui ne sont pas du tout dans la propreté, savoir exactement où en est la famille, qu'est-ce qu'on fait, comment on module, mais c'est essentiel. On a des entretiens bimensuels, puis au maximum mensuels avec le médecin pédopsychiatre qui est pour partager les évaluations de l'enfant, partager ce qu'on fait, hein, se mettre aussi, essayer ensemble de trouver le sens de certaines manifestations, pouvoir en faire des hypothèses, mettre des objectifs communs de travail réalisables, mais aussi parfois pour permettre aux parents de parler d'eux-mêmes, de leurs souffrances, de leurs espoirs et de leurs désespoirs. Autre, on a du travail en présence des parents systématiquement la première année, c'est-à-dire que tous les parents sont invités à participer soit à un travail avec la psychomotricienne, avec l'orthophoniste, avec l'éducatrice, et c'est systématique aussi sur l'unité de soins précoces. On peut avoir aussi des VAD, hein, c'est-à-dire qu'on peut aller à domicile pour faire le travail avec les parents, qu'un éducateur ou une infirmière passe à domicile, aide effectivement sur le quotidien pour une structuration. On a des groupes de parents qui fonctionnent fermés, entre guillemets, tous les 15 jours, et on voit que ça soutient énormément les parents, bon, etc., etc. On a aussi des groupes de fratrie, parce qu'avoir un frère ou une sœur si différent, c'est pas rien, et je trouve que voir les frères et sœurs ensemble, ça les aide aussi énormément, et donc on a vraiment un travail très très important. Les parents entre eux se soutiennent beaucoup. Depuis plusieurs années, on a une réunion de rentrée où ce sont les parents sortants, d'enfants sortants, ce n'est pas les parents qui sortent, ce sont les enfants, voilà, qui accueillent les parents d'enfants entrants. Voilà. Et je trouve que ça dédramatise l'entrée en hôpital de jour et que ça fonctionne très bien. Donc là, ce sont des outils, hein, un petit journal, les photos, bon, voilà. Alors, le soutien de l'intégration en milieu ordinaire, pour nous, est extrêmement important. L'intégration permet une socialisation et une minimisation des risques déficitaires. Donc, je le fais vite, hein, mais en crèche, on a des observations sur site, on raccompagne, on va travailler sur site. Et à l'école, on a une préparation du devenir élève, c'est-à-dire tous les petits, même ceux qui sont maintenus en crèche, bénéficient de temps scolaire pour pouvoir s'approprier ce qu'est devenir élève. On a des liens réguliers entre les enseignantes de l'hôpital de jour et les enseignantes de l'école pour exactement ce que vous décriviez au CESAD, hein, partager des objectifs communs, complémentaires, voir quelles sont les priorités, quels sont les aménagements pour cet enfant. On peut accompagner les enfants, que ce soit l'enseignante ou les éducateurs, sur les temps de l'école. Voilà. Par ailleurs, pour la crèche, on a rédigé un texte sur l'intégration, les précautions à prendre sur un enfant intégré en crèche. Donc on la ramène et on le travaille, itou pour l'école. Et en début d'année, on reçoit toutes les AVS et tous les enseignants des enfants pour une journée de sensibilisation autour des particularités des enfants autistes sur notre structure. Donc ça, c'est le texte qui est pour les crèches. Ça, c'est le texte qui est pour les écoles. Voilà. Et on a une prise en charge en compte globale de l'enfant particulier somatique. Donc, depuis quelques années, on avait déjà fait une EPP sur la prise en charge de la douleur et reconnaissance de la douleur chez ces enfants autistes, qui avait été d'ailleurs au niveau du CRA Midi-Pyrénées repris et diffusé sur l'ensemble des structures. Depuis peu, par rapport à ce qu'on a mis là, on fait aussi des examens orthopsie systématiques depuis quelques années, puisqu'on s'est rendu compte que le balayage oculaire des enfants n'était pas bon quand, à un moment, il y avait eu des troubles dans le regard. Voilà. Évaluation des pratiques. Alors, évaluation des pratiques, je voudrais vous témoigner d'une expérience, parce qu'en même temps que nous étions sur cette pratique intégrative, s'est mis en place, au niveau du CHU de Nantes, une étude PrEPS autisme, sur l'évaluation clinique des pratiques intégratives en unité de soins infanto-juvéniles pour des enfants présentant un autisme typique ou atypique. Donc, le champ d'inclusion, ce sont des enfants de 3 à 6 ans qui bénéficient de 2 à 4 demi-journées de soins et qui présentent un autisme typique ou atypique. C'est une étude qui est multicentrique avec 25 unités de soins. Donc, les critères principaux donc, sont les critères qui sont évalués par la PEP 3. Et la PEP 3 est bien sûr faite sur les services. Par contre, elle est cotée par des cotateurs indépendants. Ce n'est pas nous qui cotons notre PEP 3. Hein. Donc, c'est sur les critères principaux, c'est la cognition verbale et préverbale, les comportements inadaptés dans le domaine des expressions affectives. Et puis, il y a des critères secondaires, puisque vous allez voir, qui sont les interactions sociales, le comportement, etc., etc., puisqu'on a différentes échelles, échelles sur les troubles autistiques ECA, CARS, et puis des bilans orthophoniques ELO, des bilans psychomoteurs, Brunel-Lesine. Et enfin, on a quand même ce qui est extrêmement important, le point de vue des familles sur l'aide qu'on a pu leur apporter. Donc, le déroulé de l'étude, c'est en un an, plus ou moins 3 mois. Autrement dit, ça peut faire jusqu'à 18 mois avec des questionnaires. C'est une étude, c'est lourd pour une équipe. C'est extrêmement stimulant parce que ça nous a amené beaucoup, beaucoup de rigueur. Donc, les apports de l'étude sont diverses. Premièrement, ça nous a amené de la rigueur sur l'observation, puisqu'on était obligé, si vous voulez, pour cette étude, de regarder axe par axe comment l'enfant évoluait. C'est devenu, je dirais, un peu quelque chose, une pratique courante, puisqu'on est à la 3e année d'études et on a inclus chaque année 5 enfants, ce qui fait beaucoup. Voilà. Donc, c'est vrai que, du coup, on s'est fait une observation détaillée sur tous les domaines extrêmement précises et que chaque année, on essaye de renseigner. Un partage du corpus théorique. Alors, il faut dire que c'est donc Nantes et que ils avaient mis un corpus théorique intégratif avec toutes les différents courants de pensée, comment un même symptôme, selon les différents courants de pensée, pouvait être interprété ou analysé, du moins. Et c'est vrai que ce corpus est extrêmement précieux et vraiment, s'il y a des médecins là, je vous suggère fortement de le recueillir. A été maintenant d'usage courant chez nous, mais aussi sur les autres hôpitaux de jour de notre secteur. Une rédaction plus précise des projets de soins. Donc un projet de soins, c'est ça pour nous. Vous voyez, ce n'est pas 3 lignes. C'est qu'est-ce qu'on fait dans l'informel, quels sont les objectifs qu'on a, qu'est-ce qu'on fait dans chacun des ateliers qu'on propose. Et en plus, en préalable, chaque année, on fait un état des lieux. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on s'aperçoit que nous, les équipes, mais les parents aussi, parfois oublient d'où on vient. Et que quand les parents sont dans des moments de découragement, parce que quand même, il y a des petits qui sont lourds, faut pas savoir qu'on vient, qu'on a déjà gagné ça, qu'il y a déjà eu ces petites victoires, c'est important, et ça permet de les remobiliser. Je voudrais juste vous donner les premiers résultats des 11 premiers. Donc là, c'est une évaluation parentale des difficultés de l'enfant au moment de l'arrivée. Sur la ligne du bas, c'est la gravité des troubles de l'enfant, et vous voyez que donc, plus un enfant est lourd, plus c'est vers la droite. Sur la ligne verticale, c'est le décalage d'évaluation entre la gravité des troubles de l'enfant, entre la famille et nous. Et ce dont on s'aperçoit, sauf 2 cas particuliers, mais j'en dirais juste un mot, le rouge et le vert, c'est que plus les troubles sont graves, plus nous avons un décalage d'évaluation avec la famille. Et notamment, il y a des items qui sont extrêmement douloureux pour les familles. Et bien sûr, je vais vous dire par exemple, mon enfant me perçoit en tant que personne. 100% des parents à l'entrée vont dire oui, ce qui n'est pas vrai un an après. Mon enfant s'apaise à ses rassurances ou mon enfant a du plaisir et semble s'amuser lorsqu'il joue. Voilà, il y a des items qui sont si douloureux qui me semble que ça témoigne effectivement, non pas de parents qui n'ont pas vu, c'est pas vrai, c'est pas du déni, mais c'est, je dirais, un peu de façon psy, de dire les choses, une dénégation de survie, c'est-à-dire ça fait partie du chemin pour essayer de prendre. Voilà. Alors, ce qui est important, vous voyez en bleu, c'est l'écart entre ce qu'on pensait de l'enfant à l'arrivée. Et en rouge, c'est l'écart de ce qu'on pense de l'enfant à l'arrivée entre l'équipe soignante et les parents. Et comme vous voyez, au bout d'un an de prise en charge, on a un regard qui est beaucoup plus commun des enfants. La qualité du service, donc, il y avait 7 items qui sont cotés de 1 à 4. Alors, c'est est-ce que vous pensez que la prise en charge vous a permis à votre enfant d'entrer plus en relation ? Par exemple, hein, ce genre de questions, elles sont plus précises. En bleu foncé, c'est ce qu'a dit la famille, et en blanc, c'est ce qu'a dit l'équipe. C'est-à-dire que l'équipe sous-estime les bénéfices estimés par la famille. Et on s'aperçoit qu'on les sous-estime d'autant plus que l'enfant est lourd. Vous voyez la note. On a une note moyenne, puisque les familles devaient nous noter de 1 à 10. Et on a une note de 9,25 sur 10 sur l'apport. Hein. Enfin, les parents ont participé à l'étude. Ils ont été très volontaires et il nous a semblé qu'on se devait de leur présenter une présentation écrite des résultats de l'enfant. Et donc, on a mis en place un dispositif de rendu qui a été d'ailleurs après généralisé sur l'étude, visuel des résultats, avec la rédaction d'une conclusion et une remise du document à la famille. Donc, par exemple, pour le CARS, ça se présente comme ça. On a la courbe initiale qui est rouge, la courbe bleue qui est la courbe un an après. Ça, c'est la moyenne qui a été faite sur 11 enfants. Pour le cas, pareil, voilà. Pour l'élo, pareil, sauf que l'élo, on ne peut pas faire, on peut pas pondérer, donc on vous a mis un exemple que d'un seul enfant. Le Brunel-Lesine, c'est compliqué aussi de pondérer, parce qu'en fait, comme ça s'arrête à 30 mois, vous avez des enfants qui sont arrivés, qui coachaient tout bien à l'arrivée. Et à l'inverse, d'autres qui n'étaient pas très loin de 30 mois, qui ont très vite été au seuil maximum, donc faire des moyennes, ça n'a pas tout à fait sens. Le PEP 3, hein, donc ça c'est la moyenne sur les 11 enfants, et je peux vous assurer que sur un an, c'est pas mal du tout. Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai regardé un petit peu ce que sont devenus les 50 derniers enfants qui sont sortis de l'hôpital de jour chez nous. Moins de 10% ou à peine 10% sont partis en IME. Tous les autres ont intégré l'école élémentaire, soit au niveau des CLIS, soit au niveau du CP avec AVS. Je n'ai pas dit qu'ils feraient tous une scolarité normale. Hein. Loin de là mon propos. Hein. Donc certains à la sortie partent beaucoup sur des CESAD. D'autres, quelques-uns qui ont encore des troubles associés graves, vont aller sur l'hôpital de jour. C'est une minorité. Voilà. Certains, rares, mais qui sont sortis, je dirais, du spectre autistique, vont aller sur des CESAD non autistiques. Voilà, et qu'on peut quand même espérer que le devenir de ces enfants sera moins déficitaire. Par ailleurs, sur le 10% qui est passé en IME, plus de la moitié présentait des troubles génétiques ou des troubles épileptiques graves. Merci de votre attention.